Lettre 295 de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. Au Rocher, dimanche 2 octobre 1689. Il y aura demain un an que je ne vous ai vu, que je ne vous ai embrassé, que je ne vous ai entendu parler et que je vous quittais à Charenton. Mon Dieu, que ce jour est présent à ma mémoire et que je souhaite en retrouver un autre qui soit marqué par vous revoir, par vous embrasser, par m'attacher à vous pour jamais. Que ne puis-je ainsi finir ma vie avec la personne qui l'a occupée tout entière? Voilà ce que je sens et ce que je vous dis, ma chère enfant, sans le vouloir et en solennisant ce bout de l'an de notre séparation. Je veux vous dire après cela que votre dernière lettre est d'une gaieté, d'une vivacité, d'un curento calamo qui m'a charmée parce qu'il est impossible de penser et d'écrire si plaisamment sans être gai et en parfaite santé. Parlons d'abord de Monsieur le Chevalier. Je trouve son état très différent de celui où je l'ai vu. Comment pourrais-je entendre frapper le pied droit? Car, pour le gauche, nous trouvions qu'il faisait souvent l'entendu et le glorieux, quoiqu'il fût assez humilié par la contenance de l'autre, qui nous donnait autant de chagrin qu'à lui. En vérité, c'est un vrai miracle de voir ce pied-là redressé, car il s'en allait dans cet air de Monsieur de la Rochefoucauld qui faisait pleurer. Et tout ce changement, par 3/4 d'heure de bain dans cette eau salutaire, s'est fait en 3 jours. Le Mont-d'Or ni Barège n'en savent pas tant. On est donc quitte en 3 jours de ce remède. Assurez bien, Monsieur le Chevalier, de la joie sincère que j'ai, du soulagement qu'il a trouvé dans l'usage de ces eaux admirables, en attendant que nous disions guérison. Vous louez beaucoup les soins de Monsieur de Carcassonne en les comparant à ceux que vous auriez de moi. J'en puis juger, il n'y en a jamais eu de si tendre ni de si consolant. Monsieur le Chevalier trouva donc Madame de Ganges bien changée. Cela est fort plaisant. Elle avait grand tort, en effet, de ne pas ressembler à l'idée qui s'en était faite. Pour moi, je l'ai vue assez tournée sur ce beau moule, mais 100 000 lieues au-dessous, car après le visage, tant de choses manquent, et de l'air, et de la grâce, et de ce qui fait valoir la beauté, que cette ressemblance devient à rien. Si j'avais su qu'elle eût été femme de mon Gange que j'ai tant vue, il me semble que je l'aurais regardée tout d'une autre façon. Mais cela est fait. Parlons de votre Madame de Montbrun. Bon Dieu, avec quelle rapidité vous nous dépeignez cette femme! Votre frère en est ravi, mais il ne vous le dira pas. Il vous embrasse seulement. Il est avec son honnête homme d'amis. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris la peine de tout quitter pour venir impétueusement me redonner cette personne. Le plaisant caractère, toute pleine de sa bonne maison qu'elle prend depuis le déluge et dont on voit qu'elle est uniquement occupée, tous ses parents, guelfes et gibelins, amis et ennemis, dont vous faites une page la plus folle et la plus plaisante du monde, ses rêveries d'appeler le marquis d'Uxelles les ennemis, elle croit parler des Allemands. Et toutes ces couronnes dont elle s'entoure et s'enveloppe, son étonnement à la vue de votre teint naturel, elle vous trouve bien négligé de laisser voir la couleur des petites veines et de la chair qui compose le vrai teint. Elle trouve bien plus honnête d'habiller son visage. Et parce que vous montrez celui que Dieu vous a donné, vous lui paraissez toute négligée et toute déshabillée. Messieurs de Grignan sont bien habiles d'avoir trouvé son teint naturel. Voilà comme sont les hommes. Ils ne savent ni ce qu'ils voient, ni ce qu'ils disent. J'en ai vu qui admiraient des beautés bien peu admirables. Vous avez fait un joli voyage au Saint-Esprit. Vous avez vu M. de Baville, la terreur du Languedoc. Vous y avez vu encore M. de Broglio. Je crois notre Revel, le César, et Broglio, le Laridon négligé. Ils n'ont pas toujours été bien ensemble. M. le Chevalier ne les a-t-il pas vus tous deux dans les chaînes de Mademoiselle du Boucher? Broglio était un si furieux amant qu'il fut une des raisons qui la jetèrent aux Carmélites. Au reste, ma belle, nous ne sommes plus fâchés contre nos bons gouverneurs. J'en suis ravie. J'étais au désespoir qu'ils eussent tort. Il est certain, et tous nos amis en conviennent, que ce duc ne put pas dire un seul mot au roi, ni de Bretagne, ni de députation, qui n'eût été mal placé. Rome occupait tout. Il parla à Monsieur de Lavardin. Il a écrit au maréchal d'Étrée. Madame de Chaulnes a dit à Monsieur du Croissy tout ce qui se peut dire, et rien n'est plus aisé à comprendre que la vie qu'ils avaient l'un et l'autre de réussir. mais nous n'y pensons plus. Et si, par hasard, la chose revenait à nous, elle nous paraîtrait miraculeuse. Ce n'est pas le plus grand mal que me cause la mort du pape. Je suis véritablement affligée quand je pense à la perte que vous avez faite par cette mort. Je vous remercie, ma fille, de me mettre si joliment de votre société en me disant ce qui s'y passe. Rien ne m'est si cher que ce qui vient de vous et de votre famille. Je vous recommande votre belle santé et de conserver votre jeunesse, et pour cause. Je suis fort aise de la goutte de M. de Grignan, j'en ris avec vous. Voilà une belle consolation pour un pauvre homme qui crie. Mais tout est moins mauvais que de méchantes entrailles. Dieu vous conserve tous. Mes compliments, mes amitiés, mes caresses, où elles doivent être. Et pour vous, ma chère enfant, vous savez votre part, c'est moi tout entière.